Okapi.
Bonsoir. Intégration de l'armée, le gouvernement semble brûler les étapes. Il semble privilégier la voie du brassage sans passer par l'étape de la démobilisation. Dans ces conditions, le risque d'englober des éléments qui ne correspondent pas aux critères d'intégration n'est pas écarté. Le risque d'avoir une armée éléphantesque est également omniprésent. Suite de nos dossiers à caractère économique, aujourd'hui, nous parlerons de l'or à travers les hauts et les bas de l'Office d'or de Kilomoto. Vous suivrez l'évolution de ce secteur en République démocratique du Congo. Ce sera en deuxième partie de notre émission. Ma vérité sur le maréchal Mobutu et sur la transition, c'est le titre d'un livre écrit par l'actuel vice-ministre des Travaux publics, M. Banza Mukala. Il dresse un tableau sombre de la transition congolaise. Pour lui, sans la communauté internationale, le Congo pourrait s'éterniser dans son interminable transition. Vous l'entendrez dans la troisième partie de notre émission. L'insurrection de Laurent Kunda survenue en juin 2004 a fait connaître au processus normal d'intégration de l'armée un grand bouleversement. Plusieurs troupes venues des différentes composantes et entités sont conduites précipitamment à l'est pour y être brassées. Pourtant, le brassage est, selon la planification des activités de l'intégration de l'armée, la dernière étape de ce processus. Je vous propose de suivre le colonel Niembo. Il est l'adjoint chargé de la structure d'intégration de l'armée. Il nous trace d'abord les étapes préalables qui étaient prévues dans le processus d'intégration.
Colonel Niembo, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Comment s'articule le plan d'intégration tel que conçu par votre structure d'intégration?
Ce que je vous dirais a priori, que l'intégration dans son ensemble, il y a des activités relatives à l'intégration. Il y a la sensibilisation, il y a le regroupement des unités, il y a l'identification, il y a la sélection et le brassage et recyclage dans un centre de brassage. L'intégration a pour objet d'identifier et de sélectionner les éléments éligibles, c'est-à-dire en vue de constituer l'embryon de l'armée du futur. L'intégration est un acte individuel et elle se concrétise par la délivrance d'une carte militaire, bien entendu. On a eu des actions de recensement face à la garnison de Kinshasa. Il y a des éléments qui sont partis pour la sixième.
D'après les étapes que vous venez de citer, le brassage vient pratiquement vers la fin du processus.
Oui, justement.
Il y a des brassages de troupes sans que ces différentes étapes soient respectées. Est-ce que c'est comme ça que vous avez prévu ou ce sont des circonstances qui ont forcé finalement à cette décision?
Il y a ce que nous appelons les activités relatives au tronc commun, c'est-à-dire il y a l'intégration et la démobilisation. C'est-à-dire nous travaillons en parfaite collaboration et en communion avec la CONADER qui est l'interface de la structure militaire d'intégration.
Est-ce que vous êtes associé par toutes ces démarches-là de brassage de troupes à l'Est?
Quand vous y allez sur terrain, vous trouverez que les éléments, les membres de la CONADER sont sur place et nous travaillons toujours en collaboration avec eux. Ce qui se passe à Moussaki, c'est vrai, il y a déjà les éléments qui sont à Moussaki et d'autres activités vont suivre, bien entendu. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, là, la sensibilisation, l'identification, la sélection se fera avec la CONADER.
D'après les différentes étapes que vous avez citées, après le brassage, il y a le recyclage et maintenant il y a une unité ou une brigade intégrée qui s'en suit par la suite. Mais si on regarde ce qui se passe, on commence plutôt par brasser tout le monde d'abord et les autres viennent après. Est-ce qu'on n'a pas inversé l'ordre?
Non, on n'a pas inversé l'ordre. Voilà, il y a des réalités sur terrain qui font que nous devons quand même travailler. Et je vous disais tout à l'heure là que On a eu un travail d'ensemble avec la CONADER, c'est-à-dire avant que les éléments vont dans un centre de brassage, il est prévu qu'ils aillent dans un centre d'orientation, c'est-à-dire le centre d'orientation qui a un campement prévu dans le plan national de DDR pour le regroupement des ex-combattants, c'est-à-dire aux fins de bien sûr les orienter, identifier et vérifier les statuts des ex-combattants. Ça, c'est un travail qui est fait dans le cadre des troncs communs avec la CONADER. On a monté des équipes mobiles pour les équipes mobiles qui sont composées des éléments de la MONUC, de la structure militaire d'intégration et aussi de la CONADER, qui vont sur terrain. Par exemple, le cas de Machin, il y a des équipes mobiles qui vont y aller, et d'ailleurs il y a d'autres qui sont déjà là, pour faire les activités précitées. Moi, je crois qu'il ne faudrait pas quand même qu'on essaie un peu de dévier ce qu'on a prévu, c'est mieux. Restons dans l'optique des choses. Hein.
Et donc, vous estimez que tout ce qui se passe à l'Est, tout ce qui est brassage actuellement, suit ce que vous avez prévu?
Oui, il y a ce que nous avons fait, c'est-à-dire dans la globalité, il y a les plans globaux de l'intégration. Dans le plan global de l'intégration, il y a un programme d'urgence, c'est-à-dire l'ouverture des 10 centres de brassage suite, bien entendu, à l'insécurité à l'Est, certaines réalité, parce que nous devons, il y a la date butoir à laquelle nous devons toujours prendre compte, et pourquoi pas, est-ce que c'est une bêtise que nous y allons rapidement?
Mais si ce n'est pas une bêtise, mais le problème, c'est la méthode. Est-ce qu'en allant rapidement, on a quand même suivi la méthode? Est-ce qu'il y a une méthode derrière tout ça? C'est ça le problème.
Il y a eu un plan global d'intégration et ce plan est suivi, c'est-à-dire nous ne sommes pas allés à côté de ce plan. Il y a un plan qui a été élaboré et nous sommes obligés d'y suivre seulement le chemin.
On va maintenant s'attendre aussi à ce qu'il y ait de même brassage à l'Équateur, ici à Kinshasa par exemple, et au courant des années qui viennent.
Et bien sûr, parce qu'on a prévu dans le plan global de l'intégration l'ouverture de 17 centres de brassage, donc qui recouvrent la totalité des provinces de la République démocratique du Congo. L'intégration ne se limite pas seulement à l'Est ou ne se limite pas à Kinshasa, c'est partout, c'est partout.
Colonel Yembo, je vous remercie.
Pour le ministre de la Défense, Adolphe Onusumba, ce sont les difficultés avec le comité qui gère le fonds pour la démobilisation et le désarmement qui ont poussé la structure d'intégration de l'armée à effectuer les brassages des troupes sans y associer la Commission nationale de désarmement et d'intégration. Pourtant, c'est la Commission de désarmement et de la démobilisation qui est chargée d'accomplir les étapes préalables au brassage, à savoir donc la démobilisation de certains combattants et l'identification de ceux qui vont intégrer l'armée nationale. Dans l'entretien que je vous propose, vous suivrez le ministre de la Défense qui parle d'abord du brassage qui a eu lieu hier au camp de Mouchaké, au Nord Kivu. Il est au micro de Franklin Moliba-Cessé.
Monsieur le ministre Adolphe Onusumba, bonjour.
Bonjour.
Comment se fait l'opération de brassage sur le terrain?
Oui, l'opération de brassage à Mouchaké se fait assez bien. Je dis assez bien puisque toute la logistique n'est pas réunie et le climat est hostile, surtout pour les gens qui viennent d'autres régions chaudes. Et à cela, il y a des petits problèmes de moyens de transport pour acheminer les bois vers le centre de brassage. Mais je crois que, étant au courant et conscient de tout ça, le gouvernement, à travers la structure militaire d'intégration, va faire ce qui est dans ses devoirs pour pouvoir régler ces questions le plus rapidement possible.
Jusque-là, vous avez réussi à brasser combien des hommes de troupes?
6 200, c'est-à-dire 2 brigades. Je n'ai pas tous les chiffres en tête sur les enfants qui ont déjà été retirés des centres. Et il y a la CONADER qui doit venir bientôt pour l'opération similaire à celle qui a eu lieu à Kitona pour prendre officiellement ceux qui ont opté pour une démobilisation volontaire et ceux qui sont physiquement malades ou dans les conditions où ils ne peuvent pas continuer la carrière militaire.
Pourquoi vous allez directement au brassage au lieu de suivre l'opération normale de l'intégration pour arriver finalement au brassage dans des centres?
Vous conviendrez avec moi qu'il y a eu des problèmes dans la mise en application de la CONADER et du comité de gestion des fonds, ce qui fait que l'urgence étant ce qu'elle a été et la bonne volonté des partenaires qui ont voulu nous assister dans ce processus, surtout dans la formation des formateurs, nous avons privilégié le processus d'urgence et nous sommes en train de nous rattraper petit à petit en intégrant la CONADER dès que la CONADER a tous les moyens pour fonctionner. On ne le fait pas à dessein, mais c'est dans le souci de ne pas perdre trop du temps, mais d'avoir quelques éléments qui vont permettre l'organisation des élections et la sécurité du pays dans l'entretemps avec le DDRRR.
En procédant directement au brassage de troupes, sans passer par exemple à l'identification, sans passer par exemple à des examens précis sur les éléments, est-ce qu'on ne risque finalement pas de s'y retrouver avec des étrangers dans l'armée, avec des gens invalides, avec des enfants et finalement se retrouver devant des vrais problèmes?
Nous avons pris toutes ces précautions-là, puisque maintenant, par exemple, pour le cas de Mouchaké, avant notre départ de Goma, nous allons mettre en place cette commission qui va aller à l'identification pour, comme vous l'avez dit, rassurer la population que ce sont des troupes totalement congolaises. Vous savez que pour le cas de Mouchaké, il y a eu des rumeurs comme quoi il y avait des interahamwe dans les centres. Et il y a des Congolais d'ailleurs qui ont pensé qu'il y a des Rwandais qui sont infiltrés. Donc, ça a un double avantage d'organiser l'identification, les examens médicaux pour pouvoir savoir qui sont capables de continuer dans l'armée ou qui ne le sont pas, pour nous permettre d'avoir une sélection requise pour la formation d'une armée qui soit capable de mener les opérations.
Est-ce que y a un plan que vous avez déjà conçu, un plan directeur d'intégration?
Oui, le schéma d'intégration dans les centres, comme vous savez, c'est un plan que j'ai trouvé et qu'on est en train de mettre en application. Maintenant, c'est gérer les aléas, les éléments qui se présentent au cours de cette intégration et les difficultés qu'on rencontre. Nous sommes très flexibles, étant conscients des attentes de toute la population, des difficultés que nous allons rencontrer. Et on ne peut pas fonctionner sans avoir un plan ou un projet. Il y a le programme national RR qui s'occupe de la démobilisation et de la réinsertion. Et l'intégration doit commencer par le recensement avec l'identification des gens qui optent pour une démobilisation volontaire. Dans l'entretemps, ça va nous permettre de contrôler les effectifs.
Mais l'idée du départ, c'est de réduire l'armée à un effectif de 120 000 hommes. Mais
Bon,
est-ce...
décider, parler de 120 000, c'est sur base de quels critères? Nous voulons une armée qui soit opérationnelle, une armée du développement. Il faut des critères pour de la taille. Ce n'est pas nous sommes à l'individu qui va décider, se réveiller le matin et dire nous allons avoir une armée de 20 000 hommes.
Parce que vous venez de dire, on n'a pas une idée précise sur la taille de l'armée. Est-ce que cela ne va pas poser un problème sur l'objectif même de l'intégration si on ne sait pas mesurer la taille de l'armée?
Non, mais écoutez, comment vous allez dire, nous avons. Si par exemple aujourd'hui on identifie, on dit qu'on n'a pas 120 000 combattants, il faut terminer le recensement et que la commission qui fait le recensement, avec la commission ad hoc qui travaille sur la loi sur l'armée, puisse nous dire, voici, sur base des éléments objectifs, ce que nous proposons. Et ça va être étudié au niveau du Conseil supérieur de la défense et la responsabilité sera donnée aux organes compétents pour déterminer la taille de l'armée. Ce n'est pas l'affaire d'un individu et je vous dis ça, peur d'être contredit qu'à l'Assemblée nationale, on n'avait pas déterminé la taille de l'armée.
Est-ce que cette opération de brassage des troupes va continuer sur l'ensemble de l'étendue du pays ou vous allez vite remettre en place ces structures d'intégration pour qu'enfin ces structures puissent reprendre leur travail en main et le plus rapidement?
Le brassage est un processus. Et si aujourd'hui nous avons suffisamment d'éléments qui puissent travailler pour l'organisation des élections. L'intégration va continuer jusque lorsque nous allons avoir tous les éléments.
Monsieur le ministre, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Toutes ces opérations de brassage qui ne s'accompagnent pas de désarmement ou de la démobilisation, qui sont des étapes préalables qui doivent être effectuées par la Commission nationale de désarmement et de réinsertion communautaire, pourraient avoir des conséquences néfastes dans la formation de la nouvelle armée nationale. Sans le respect de toutes les étapes prévues pour le processus d'intégration, il serait difficile de réduire la taille de l'armée à 120 000 hommes de troupes, comme l'exigent les bailleurs de fonds de la République démocratique du Congo. En plus, le risque serait d'intégrer au sein de l'armée nationale des éléments indésirables. Je vous propose de suivre le colonel à la retraite, le colonel Ebenga, qui est un expert militaire. Il suit depuis longtemps ce processus d'intégration.
Colonel Ebenga, bonjour.
Bonjour, Okapi.
Quelles sont, selon vous, les conséquences en procédant au brassage de troupes sans passer par les étapes préalables au processus d'intégration?
Les conséquences seraient qu'on aurait ramené des gens de toutes parts avec tous les horizons militaires dus à leur formation et organisation, et on aura créé une sorte de tour de Babel qui n'est pas du tout intéressante pour le fonctionnement d'une armée opérationnelle.
L'idée du départ était de simplifier l'armée, de passer de 300 000 hommes de troupes à 120 000 soldats. En passant directement par le brassage, est-ce qu'on va atteindre cet objectif-là de 120 000 soldats bien formés?
Écoutez, le brassage, de prime abord, est une étape dans le processus d'intégration. Brasser les hommes sans avoir le plan global des effectifs qu'on veut atteindre ne veut pas dire grand-chose. Le brassage doit être un moment où on ramène les gens ensemble pour planifier soit leur intégration dans l'armée, soit leur départ en démobilisation. Donc, on ne peut pas a priori dire que le brassage suffit pour connaître les effectifs finaux d'une armée. Non, il faut une planification rigoureuse. Et c'est là qu'on aurait sans doute un temps, peut-être plus long qu'on l'imagine, pour arriver aux effectifs idéaux qu'on voulait absolument avoir.
D'après les dispositions légales et réglementaires du pays, ce processus d'intégration devrait être fait par la direction d'intégration de la CONADER. Mais maintenant, on voit comme si c'est le ministère de la Défense lui-même qui s'occupe de ces brassages. Est-ce que ce n'est pas un problème?
Non, ce n'est pas la direction de l'intégration de la CONADER. Il n'y a pas de direction d'intégration à la CONADER. Il y a ce qu'on appelle la structure militaire d'intégration, qui est un organe qui est rattaché à l'état-major général de l'armée et qui donc est responsabilisé par la loi à opérer le processus d'intégration. Donc cela est conforme disons, aux prérogatives de cet organe de le faire. Toutefois, il y a ce qu'on appelle un tronc commun entre l'intégration et la démobilisation, là où les deux processus suivent un cursus commun, notamment composé par la sensibilisation, le regroupement des hommes et leur orientation, avant qu'ils ne puissent aller soit à l'intégration, soit à la démobilisation. Ils doivent passer par ce tronc commun-là. Et souvent, c'est ce qui n'est pas fait, et ce qui fait que les gens se sont retrouvés directement à la phase du brassage, sans avoir été, disons, sans être passés par le tronc commun que nous avons indiqué tout à l'heure. Et c'est ça cause qui pose problème.
Et donc, selon vous, le problème ne se trouve pas au niveau de qui fait ce brassage, mais c'est pour le problème se trouve au niveau de préalable pour arriver au brassage, c'est ça?
Tout à fait, tout à fait. Mais il y a un certain flottement. Ce tronc commun-là, dont je parlais tout à l'heure, ce tronc commun est une prérogative première du DDR. Mais le DDR doit le faire en rapport, en collaboration avec la structure militaire d'intégration. Et c'est là que cette collaboration-là n'est pas encore bien harmonisée. Souvent, la structure militaire d'intégration attend que le DDR fasse certaines choses, ce qui est de devoir le DDR. Le DDR n'est pas malheureusement appuyé par la structure militaire d'intégration pour faire cela. Donc il y a là encore une sorte de mauvaise communication qui retarde le processus de la mise en œuvre du tronc commun.
Et donc on peut dire que par rapport à ces tergiversations entre structure d'intégration et la CONADER, que finalement les militaires eux-mêmes se prennent en charge en commençant à brasser comme ça leurs troupes sans un plan.
Oui, il y a cela, il y a des questions de retard aussi, hein. Il y a des retards dans la mise en œuvre des deux processus d'intégration et du GDR, qui fait qu'on a annoncé le processus, il y a impatience de la part de beaucoup d'hommes de troupes sur terrain, et alors devant des situations de fait où ces gens se disent, nous voulons vite aller soit à l'intégration, soit à la démobilisation, et qu'il n'y a pas encore de structure apprêtée pour les accueillir, devant cette situation de fait, les commandants d'unité prennent des initiatives qui sont parfois tout à fait, peut-être encore pas conformes à la politique générale qui est élaborée, parce que c'est sous la pression de la troupe sur le terrain.
Alors, faudrait-il se laisser aller sous la pression du temps ou sous la pression des hommes de troupe pour finalement faire mettre en place des activités de brassage bâclé?
Non, on ne doit pas agir sous la pression, bien qu'il faut en tenir compte. Il y a à mettre en place des mécanismes de fonctionnement rapide, et je suis heureux d'apprendre que la CONADER envisage d'avoir ce qu'on appelle un coordonnateur des opérations, qui est l'instance vraiment cheville ouvrière, qui est une sorte de chef d'état-major en quelque sorte de la CONADER, mais ce n'est pas forcément un militaire, non, mais en tout cas une sorte de chef d'état-major qui mène des opérations sur le terrain et qui harmonise les choses entre la politique globale et les nécessités de terrain. Et cela est une bonne chose de le faire rapidement.
Colonel Ebenga, je vous remercie.
Je vous en prie.
Nous suivons pour vous de près l'évolution du dossier sur l'intégration de l'armée nationale. Nous ne manquerons pas de vous informer de tout développement qui surviendrait. Une pause musicale et nous allons parler économie. Vous le savez, l'Assemblée nationale a voté le budget 2005. Profitant de l'examen de ce budget, nous avons entamé depuis la semaine passée une série de dossiers à caractère économique. Nous vous avions déjà parlé du coton. Aujourd'hui, nous vous parlons de l'or et principalement de l'office d'or de Kilomoto. Cette société qui produisait jusqu'à 8 tonnes d'or par an avant l'accession de notre pays à l'indépendance a produit il y a quelques mois, tenez-vous bien, seulement 5 kilos d'or. En attendant, des orpailleurs travaillant pour on ne sait qui produisent pas moins de 15 tonnes d'or sur l'ensemble du territoire national, quand on sait qu'un kilo d'or coûte près de 12 000 dollars américains. No comment. Vous écoutez l'émission Dialogue entre Congolais, le magazine d'actualité de Radio Okapi. Je vous invite à présent à suivre notre dossier sur l'or. C'est un dossier que j'ai préparé conjointement avec Franklin Molibasese.
Profitons déjà de l'examen du budget 2005 qui s'est déroulé à l'Assemblée nationale. Nous avons débuté avec une série de sujets à caractère économique. Nous vous avons ainsi parlé du coton qui traverse une période de vache très maigre. Pourtant, ce secteur était l'un des piliers de l'économie congolaise à l'époque coloniale et même postcoloniale. Aujourd'hui, nous poursuivons avec l'or, un autre secteur qui est en difficulté, mais contrairement au coton, l'industrie de l'or peut rapidement refaire surface et contribuer au développement de la République démocratique du Congo. C'est un dossier qui nous est préparé par Paul Kaboba.
Oui, Franklin, vous avez bien fait de le souligner. Le secteur de l'or était l'un des piliers du budget national congolais. Et qui dit or en République démocratique du Congo pense d'abord à l'office d'or de Kilomoto. Le passé, le présent et le futur de cette entreprise fera donc l'essentiel de ce dossier. Mais avant de vous proposer l'essentiel de l'interview que nous a accordé le pasteur Cosma Wilongula, j'aimerais que nous parlions de quelques chiffres qui caractérisent le secteur de l'or aujourd'hui.
Oui, il sera intéressant de savoir quelles sont les réserves d'or au Congo.
Franchement, les réserves d'or du Congo ne sont pas connues avec exactitude. Les derniers grands sondages datent pour la plupart d'avant l'indépendance de notre pays.
Mais il y a du moins des estimations.
Oui, des indices, principalement des indices d'orpaillage. Il y a eu également des études faites par l'Office d'or de Kilomoto ou par ses partenaires ainsi que par d'autres opérateurs dans le pays. Mais tous ces indices font dire que le Congo dispose de plus ou moins 1000 tonnes d'or en réserve.
1000 tonnes d'or en réserve, c'est pas peu?
Pas du tout, Franklin. Les plus grandes entreprises et les grandes compagnies d'or produisent près de 10 tonnes par an. Une réserve de 1000 tonnes est donc une grande potentialité.
Alors, à combien estime-t-on la production actuelle du Congo en or?
Là aussi, difficile à quantifier. Mais si on se fie aux exportations d'or de certains pays qui entourent le Congo, on estime que pas moins de 15 tonnes d'or sortent chaque année de la République démocratique du Congo.
Merci beaucoup, Paul. Passons maintenant à l'interview que vous a accordée l'ADG de Okimo.
Oui, Franklin, étant donné, et on l'a dit dès le début, que l'office d'or de Kilomoto est le fer de lance de la production d'or industriel en République démocratique du Congo, la situation de cette société est comme un thermomètre de ce secteur. La première question que j'ai donc posée à l'ADG de l'Okimo est celle de savoir à combien se montent les réserves d'or de sa société.
Nous pouvons déjà avouer qu'en ce jour, nous sommes à plus de 130 tonnes d'or, ce qui est une réserve énorme. Et cela redonne l'espoir à l'Okimo.
Et en totalité, les réserves peuvent s'évaluer à combien?
En totalité, aujourd'hui, nous avons trois vieilles, il faut dire trois mines, ont déjà donné 4 300 000 onces d'or, ce qui est presque plus de 130 tonnes d'or. Et il y a des réserves qui sont en train d'être évaluées pour peut-être deux ou trois gisements encore et qui pourront peut-être faire plus de 100 tonnes d'or.
On peut avoir une idée du prix d'une tonne d'or.
Juste, je vous donne l'image, 1 kilo d'or actuellement, officine de Londres, il est à 12 000 dollars. Et une tonne d'or à 1 000 kilos. Si nous prenons même un minimum de 10 000 kilos, donc une tonne d'or est presque, ça vous fait 1 000 kilos. Et 100 kilos, vous avez presque 1 million de dollars. Alors, vous vous rendez compte, on peut arriver déjà à quelques millions de dollars dont le calculatrice pouvait facilement nous donner le chiffre. En tout cas, ça peut vous faire déjà peut-être, si je prends 1 000 kilos et je vous fais fois 10 000 dollars. Vous comprenez ce que ça va pouvoir vous donner?
Aujourd'hui, votre stratégie semble reposer sur la location, ce que vous appelez la modiation, et aussi
Oui.
une participation dans les sociétés à venir, et où
Oui.
vous avez ipso facto 20 à 30%. Vous ne semblez pas vendre votre entreprise au rabais?
Non, je peux vous l'avouer très sincèrement que nous ne vendons pas notre entreprise au rabais. S'il n'y avait pas cette amodiation-là, depuis 40 ans, depuis l'indépendance, personne ne savait si Kilomoto pouvait avoir même 50 tonnes d'or. Mais cette stratégie nous a permis d'abord de connaître réellement le potentiel que couvre toute notre concession. Et le 30 à 20% que nous avons, c'est notre participation dans la société d'exploitation. Mais en dehors de ça, Kilomoto a au moins un loyer d'amodiation qui sera payé proportionnellement à la taille du gisement. Si nous considérons un gisement qui a peut-être 50 tonnes d'or, ce gisement qui a 50 tonnes d'or, nous allons toucher. Pour le moment, nous touchons le petit loyer d'amodiation pendant la période de vérification de réserve. Et quand on va passer à la phase d'exploitation, donc avec commercialisation, nous allons toucher nos dividendes pour le 20 à 30%. Et en plus de ça, nous allons maintenant toucher un loyer qui est proportionnel à la taille du gisement. Et j'ai donné un exemple, comme je peux vous le donner. Rien que dans la concession 40, nous avons par exemple un loyer de 2 500 000 dollars par an. Je crois que les 2 500 000 dollars par an représentent une production de plus de 250 kilos d'or. Alors vous vous rendez compte que Kilomoto n'aura pas vraiment perdu.
On peut estimer les réserves d'or du Congo à des milliers de tonnes.
Oui, je vous dis qu'à travers le monde, dans tous les pays du monde, les réserves minières sont suffisamment connues. Le Congo était jusqu'à aujourd'hui l'unique maintenant réserve qui n'était pas connue. Et nous avons eu un problème parce que notre gouvernement ou la politique minière du Congo à l'époque n'a pas permis de pouvoir connaître réellement partout où seraient les gisements d'or et quelle était la valeur de ces gisements. Mais des pays, même des petits pays comme la Namibie, les gouvernements financent des programmes de sondage et retrouvent tous les gisements à travers leur pays avec leur titrage, en sorte que quand il y a des partenaires, on fait leur donner, voilà, vous pouvez exploiter tel gisement qui contient autant de tonnes d'or. Et nous croyons que nous sommes effectivement le grand réserve mondiale qui contient énormément d'or, mais qui ne sont pas jusqu'à aujourd'hui quantifiés ni chiffrés.
Vous aviez dit que les guerres peuvent aussi s'expliquer, les guerres notamment dans la province orientale peuvent aussi s'expliquer par cet appât que représente l'or.
Oui, je crois qu'aujourd'hui, je ne peux pas ne pas le confirmer parce que nous sommes en train de voir. Je vous dirais que tout tourne autour de ce gisement d'or. C'est vrai qu'il y a d'autres éléments humains peut-être qui interviennent. Nos amis sociologues, politologues, autres peuvent faire leurs analyses sur ces aspects humains, mais nous croyons que ce qui attire beaucoup plus les gens, tous les milices à Bounia n'ont fait que tourner autour du gisement d'or où ils ont mis leurs orpailleurs ainsi de suite, et même dans la partie du nord. Si vous trouvez partout ces milices tournées, c'était autour du gisement d'or. Nos concessions ou nos mines en exploitation avaient été prises d'assaut et c'était pratiquement un élément qui attirait beaucoup plus ces gens. C'est vrai, nous pouvons dire qu'ils n'ont peut-être pas produit dans ces endroits-là énormément assez de tonnes d'or, mais nous croyons que cela leur permettait de voir rien qu'un kilo déjà qui pouvait donner 12 000 dollars à un groupe armé. Et s'ils en faisaient 4 ou 5 kilos, vous vous rendez compte qu'ils avaient de quoi pouvoir se ressourcer sur le plan de ce qu'ils pouvaient faire. Et leur programme militaire et autres, si pas leur propre soutien. Donc il y avait en fait quelque chose dans ce sens-là. Et comme à travers le monde, un peu partout, là où il y a l'or ou le minerai, ça attire les gens à différents niveaux que ce soit, et pour des raisons aussi diverses. Mais la toute première chose, tout le monde cherche à avoir quelque chose, à pouvoir se servir, et la force de l'arme faisait que ce qui était beaucoup plus fort, eux pouvaient rester longtemps là où ils croyaient trouver beaucoup plus d'or.
Voilà donc, Franklin, l'essentiel de l'interview que nous a accordé l'ADG de l'Okimo.
Alors, pouvons-nous juste savoir si les réserves d'or se trouvent que principalement en Ituri?
Il y a beaucoup d'or en Ituri, mais il y en a beaucoup un peu partout en République démocratique du Congo. On en a même découvert dans le district de Tchela, dans le Bas-Congo. Il y en a dans le Kivu. Il y en a même en dehors de l'aire d'activité de ce qu'on appelait la SOMICA, c'est la principale société d'or dans le Kivu. Il y en a dans le périmètre d'exploitation de la Miba au Kasaï oriental. Il y en a dans le Katanga, à Moba, disons en partant déjà de Fizi. Certains pensent même que les fameuses mines de Salomon, pour vous dire qu'il y en a beaucoup dans le pays, certains pensent que les fameuses mines de Salomon se trouvaient en République démocratique du Congo, exactement en Ituri. On va juste écouter l'ADG de l'Okimo, il est l'un de ceux qui pensent comme cela.
Moi-même en tant que pasteur, et que dans l'histoire la plus profonde même de la Bible, il est signalé que la caravane de l'or de Salomon était de l'or qui était tiré de la concession de Kilomontre. Cela témoigne au juste la grande richesse et le potentiel que regorge la concession de l'office de mine d'or de Kilomontre.
L'or de Kilomoto, vous l'avez entendu de la bouche même de M. Kosma Wilungula, ADG de l'Okimo, administrateur directeur général de l'Okimo. Donc, cet or a pu servir jusque dans le mythique temple de Salomon. Il est dommage que cet or aille maintenant dans les temples des démons de la guerre, en servant par exemple à l'achat des armes de guerre et autres engins de la mort. La littérature dans l'émission Dialogue entre Congolais, c'est possible, pour preuve. Nous parlons aujourd'hui d'un livre écrit par le vice-ministre des Travaux publics et Aménagement du territoire, M. Banza Mokalai, ancien tête de file des jeunes turcs du mouvement populaire de la Révolution, vient de publier un ouvrage intitulé « Ma vérité sur le maréchal Mobutu et sur la transition ». L'ancien vice-président du MPR fait privé parle de Mobutu, il y parle surtout de la transition. Le diagnostic qu'il pose sur la marche de l'interminable transition est plus que sévère. Pour lui, sans la communauté internationale, le Congo risque de durer encore longtemps et même très longtemps dans le tunnel. Je vous propose de suivre l'interview qu'il m'a accordée en début de week-end. Monsieur le vice-ministre Banza Mokalai, vous venez de publier un livre intitulé « Ma vérité sur le maréchal Mobutu et la transition ». Quel but visez-vous en publiant ce livre?
Je voulais témoigner à propos d'une période dans laquelle j'ai joué un rôle. J'ai pensé que c'est une expérience qu'il fallait partager pour que les autres en tirent des leçons. Je crois que c'est la meilleure façon de servir l'humanité.
C'est aussi une critique de la transition.
Tout à fait.
Et vous estimez que des hommes comme Mobutu sont nécessaires pendant cette période?
Mobutu avait des qualités qui sont nécessaires pendant cette période. Parce qu'il avait aussi des faiblesses. Mais j'insiste sur les qualités.
Et nous voyons dans ce livre un Mobutu, un homme éduqué qui voulait de l'éducation pour ses enfants.
Oui, parce qu'il insistait pour que les enfants saluent, nous saluent par nos fonctions. On vous saluait, bonjour Monsieur le ministre, bonjour Monsieur le vice-président. Chaque fois qu'un enfant oubliait ça, il les lui rappelait.
On voit également un Mobutu capable de frapper dans le dos un félin qui n'affrontait pas ses adversaires en face.
Oui, il y a beaucoup de cas que j'ai évoqués dans les livres où souvent, quand Mobutu se plaint de quelqu'un, c'est une autre personne qui porte cette parole, qui les dit, qui l'affronte. Mobutu joue finalement à l'arbitre.
Le livre aussi est plein d'anecdotes, les négociations, la façon dont on travaillait pendant la Deuxième République. Vous avez voulu faire une restitution?
Oui. C'est un témoignage. Et le témoignage est par essence une sorte de restitution. À la seule différence que j'émets un commentaire personnel, ça et là.
Et finalement, on voit pendant cette Deuxième République, s'il faut parler par exemple de l'opposition, et il y a une phrase qui est revenue. On voit des gens qui sont félins. Le jour et la nuit, ce sont des petits chats.
Oui, tout à fait. C'est une expression qu'avait lancée. Monsieur Thiombo Mokouna, alors conseiller politique du maréchal Mobutu, on l'appelait aumônier national. Thiombo, à la conférence, il est venu avec un dossier volumineux des opposants qui voulaient lire, déballer. Alors, Monseigneur n'a pas permis qu'il déballe et il dira que la plupart d'entre les membres de l'opposition étaient loups la journée. Et agneau la nuit.
Est-ce qu'il y a une différence aujourd'hui avec ces hommes politiques? Est-ce que la classe politique s'est renouvelée?
La classe politique s'est renouvelée. Il y a beaucoup de jeunes qui sont entrés en politique, mais je n'ai pas l'impression que les pratiques aient changé.
Finalement, on est allé de Caribe dans Scylla.
J'ai comme l'impression que beaucoup d'acteurs politiques, même nouveaux, continue à avoir un comportement qui n'est pas différent de ce qu'on a déploré ou ce qu'on a connu.
Finalement, vous n'êtes pas optimiste quant à l'issue de cette transition.
Ah, pourquoi pas? Parce que la transition ne dépend pas que de nous. Nous ne sommes pas dans un vase clos. Nous avons un rôle extrêmement important à jouer, certes, mais il y a aussi la communauté internationale qui a un œil regardant, qui a les moyens de pression, qui va nous conduire à aller vers la fin de la transition, en organisant les élections libres et démocratiques.
Vous pensez que s'il n'y avait pas cet œil de la communauté internationale, les choses allaient durer en longueur et ne pas avancer?
Ah, je suis d'avis que les choses iraient en longueur et n'avanceraient pas, parce que souvent, les gens n'ont pas le sens de l'intérêt supérieur de la nation. Quelque part, on se pose la question. Si on réalise l'intérêt supérieur de la nation, chacun ne voit cet intérêt supérieur de la nation qu'à partir de ses propres intérêts. Et dès cet instant-là, ça pose des problèmes. Et je crois que l'œil regardant de la communauté internationale nous pousse, nous conduit à aller un peu plus rapidement en besogne et à faire aboutir la transition telle qu'elle doit aboutir.
La classe politique congolaise, vous l'avez montré même dans votre livre, s'accroche parfois à des futilités. Aujourd'hui, on voit au Parlement, on s'accroche sur un point, on s'accroche sur une virgule.
Oui, tout à fait. À un moment, on s'accroche à des questions qui n'en valent pas la peine. Je pense que il ferait mieux de se dépasser et d'aller à l'essentiel. À l'essentiel aujourd'hui, c'est aller aux élections. Essentiel aujourd'hui, c'est préparer les élections qui soient ouvertes à tous, que le peuple désigne celui qu'il voudra bien voir les diriger. À faire perdre le temps à discuter sur le sexe des anges, moi je crois que ce n'est pas ça servir l'intérêt du peuple.
Est-ce qu'au fond de vous-même, vous pensez que les gens veulent vraiment aller aux élections? On ne connaît même pas les candidats, à part peut-être Étienne Tshisekedi et Didier Mumengi.
Ah, mais là, vous parlez des élections seulement au niveau présidentiel. Les élections, c'est à tous les niveaux, au niveau présidentiel, au niveau législatif, au niveau local. Donc, les gens doivent aller aux élections parce qu'on en a assez de partager le pouvoir à partir des salons. Ça fait longtemps, depuis que la transition a commencé, le 24 avril 1990, les gens ne faisaient que partager le pouvoir à partir des salons. Maintenant, je crois qu'il faut laisser au peuple l'occasion de désigner ceux qui vont les diriger. Laisser que le pouvoir maintenant soit issu des urnes. Et je crois que c'est une nécessité impérieuse, incontournable. Il faut tous que nous souhaitions que cette période électorale arrive.
Et en parlant de votre expérience avec Mobutu, votre rencontre est pratiquement fortuite.
Oui, elle était fortuite. Moi, j'ai toujours cru à ce que les Latins appellent les fatum. Bon, elle était fortuite.
Finalement, on voit pendant cette période où vous aviez le choix, parce que Mobutu était en déclin. Pourquoi avez-vous choisi Mobutu au lieu de l'opposition?
Je pensais que c'était pour moi l'occasion de contribuer au système démocratique, de donner les idées à un niveau où celles-ci peuvent être utilisées utilement. Bon, il est beau, il est facile de critiquer, mais construire, ce n'est pas une chose aisée. Alors, si j'étais associé à un endroit où je pouvais donner les idées pour qu'elles construisent, elles interviennent directement dans la construction, j'estimais que c'était là, c'était une expérience merveilleuse. Il fallait saisir la balle, je l'ai saisie et je ne le regrette pas.
Vous croyez à cette époque que Mobutu était un facteur de paix, de stabilité?
Naturellement, oui.
Et pourquoi? Parce que vous étiez un jeune Turc ayant gagné deux fois les élections à Lubumbashi avec des moyens simples face à certains grands messieurs de Lubumbashi. Cela vous conduisait facilement, disons, vers la révolution de l'opposition.
Ben, vous savez, j'ai gagné les élections sous la Deuxième République. Maintenant, on commençait une nouvelle étape, celle de la démocratisation, qui a commencé le 24 avril 1990. En ce moment-là, il y avait un groupe qui s'est déclaré de l'opposition, un autre qui s'est déclaré du président de la République. Et moi, j'ai été approché par le président et j'ai pensé que je pouvais donner ma contribution à ce niveau. Je ne le regrette pas.
Certains pourront dire que Mobutu avait comme principale méthode d'approcher les gens avec des moyens, de l'argent. Pour vous, ce n'était pas le cas.
Non, pas du tout, parce que quand je l'ai rencontré pour la première fois, j'ai discuté avec lui. Je ne me souviens pas d'avoir eu de l'argent en ce moment. Et puis après, j'étais devenu son collaborateur. J'étais devenu son collaborateur parce que j'estimais que c'était le moment pour nous de contribuer à faire avancer le processus.
Finalement, vous regrettez cet homme-là.
Je regrette tout humain qui disparaît. Il faut regretter la mort de tout homme qui disparaît. L'être humain, qui qu'il soit, quoi qu'il fasse, on souhaite qu'il vive, ben, s'il disparaît, il faut le regretter.
Vous êtes un Katangais à l'époque. Le Katanga était le bastion de l'opposition, vous l'avez dit. Pourtant, vous avez suivi Mobutu, un homme de l'Équateur. C'est une façon d'être nationaliste pour vous.
Oui, d'être nationaliste, mais aussi de montrer que la politique, c'est un problème de vision. C'est un problème de vision parce qu'à l'époque, il y a des gens qui pensaient que le Katanga pouvait se recroqueviller sur lui-même. J'étais de ceux qui disaient que non, le Katanga ne peut être fort que dans l'ensemble du Congo. Il fallait que les Katangais puissent pouvoir faire entendre leur voix ailleurs. Alors, je crois que l'avenir peut m'avoir donné raison.
Sur ce, je m'en vais remercier Héritier Sidiakala qui a réalisé cette émission. On se retrouve demain pour notre édition du Dialogue entre nous.